Chapitre 2. Sur les midis, le cousin arriva devant le lit de son hôte, selon son habitude, et lui demanda s'il n'avait pas envie de voir la noble dame. L'héritier du majorat lui répondit par un oui très marqué, en ajoutant qu'il désirait beaucoup lui faire sa visite seul. Il s'habilla promptement et se mit en route avec le cousin, qui réfléchit que justement elle serait aussi seule aujourd'hui. En se rapprochant de sa maison, le cœur battait au jeune héritier. « Quelle est donc cette affreuse boîte à hommes ? » demanda-t-il à son cousin. « Une nuit, je me suis assis au pied de la statue qui est placée dans cette niche. »« Mais ne connaissez-vous donc pas votre majorat ? » dit le cousin. « Oh, cela serait mieux habité que mon petit taudis. »« Bon, me préserve le ciel, » répondit l'héritier. « J'aurais voulu ne pas la voir. »« Il me semble que ces grosses pierres ont été cimentées par la faim et la douleur. Il est probable que celui qui l'a bâti y a gagné à peine de quoi manger. »« Votre père n'avait pas l'habitude de faire beaucoup de frais. Et une fois, alors que je vivais misérablement au jour le jour, il m'intenta un procès parce que je ne lui avais pas remis à la date indiquée le montant d'un mémoire de tailleur qu'il avait payé pour moi. » « C'est dur, » dit l'héritier du majorat. « Avec de telles façons, il n'y a pas d'avantage à être héritier. » En causant ainsi, ils étaient arrivés dans l'antichambre de la dame, qui fit prier ces messieurs d'attendre une petite demi-heure parce qu'elle avait quelques lettres à terminer. Le cousin tira sa montre, voyant qu'il ne pouvait rester tout ce temps sans retarder l'heure de sa promenade réglementaire, se retira, laissant l'héritier tout seul. Ce dernier était inquiet dans cette chambre. La grenouille verte, croassant sur sa petite échelle, lui semblait animée d'un esprit funeste. Les fleurs même, dans leur peau, n'avaient pas un air innocent. Dans les passe-partout, il lui semblait voir une douzaine de diplomates décrépits qui le surveillaient. Mais ce qui le tourmentait plus que tout cela, c'était le barbet noir qui, cependant, paraissait lui-même avoir peur de l'héritier. Il le croyait une incarnation du diable. Enfin, lorsque la noble dame, peinte de couleurs aussi variées que celles d'un feu chinois, sortit de la chambre et entra dans celle où se trouvait l'héritier, il faillit perdre la raison, car il ne lui était jamais venu à l'idée qu'une femme si laide fût sa mère. « Mère, dit-il en la regardant profondément, votre fils est bien malade. » Il pensait qu'elle allait être effrayée ou l'appeler fou. Mais elle s'assit tranquillement à côté de lui et lui répondit, « Fils, ta mère se porte très bien. » En même temps, elle lui tendit un flacon d'odeur, mais il le repoussa en s'écriant, « Oh, je vois une âme empoisonnée là-dedans. » « Oh, s'il y a une âme là-dedans, c'est sans doute celle de ton père si beau. C'est le flacon que je lui tendis le jour où, devant ma porte, il fut frappé en duel par le lieutenant, le cousin. Je vis sous le même toit que l'assassin de mon père, et tu es sa meilleure amie. Oh, tu en sais trop, continua-t-elle, pour que je ne t'apprenne pas tout ce que j'ai fait pour toi, toute la reconnaissance que tu me dois. » Toute la ville appelait ton père le beau. Cette réputation fit que pour lui, j'oubliais mes devoirs. Notre amour resta secret, il est vrai, mais les suites de ma faute me mettaient dans la certitude d'être banni de la cour, si je ne pouvais les cacher, car ton père avait été tué avant de remplir la promesse qu'il m'avait faite de m'épouser. Je réussis, oh, je le sais. Et en même temps que je vengeais ton père de son meurtrier, je le mettais en possession de ce qui aurait dû échoir en tout droit à ce dernier. Je fis plus, par mon influence à la cour, je me mis en travers de toutes tes tentatives d'avancement et je l'enlaçais dans les filets de mes appâts. On ne voulut reconnaître ni ses talents ni son courage. Et c'est dans de pitoyables soucis, dans les mille combinaisons qu'il fut obligé de faire pour pouvoir vivre, qu'il est devenu ce personnage ridicule aux yeux de tous, tandis que les vieillards parlent encore avec transport des succès de ton père et le prennent pour point de comparaison quand ils veulent exprimer la beauté. Mais lorsque je te vois élevé noblement, libre de tout souci, capable d'obtenir les plus hautes dignités, et que je pense au cousin qui, tous les jours, aux huées des gamins, vient se dandiner devant ma fenêtre avec un regard louche qui voudrait être amoureux et une démarche de coq se pavanant et qui se trouve heureux de peigner mon chien chaque dimanche, alors je sens que ton père est vengé et que c'est une belle couronne que j'ai portée sur sa tombe. Ou bien, si je faisais plus encore pour achever le cousin, si je l'épousais pour déranger toutes ses habitudes et pour disperser sa collection d'armoiries. L'héritier du majorat n'avait pas entendu toute cette révélation, autrement il aurait placé son interruption plus tôt. Si je ne suis noble que parce que j'ai été placé par fraude sur le sein d'une mère, s'écria-t-il tristement. Et où est le malheureux enfant qui a été chassé à cause de moi? Je le sais, moi, c'est Esther, la belle et infortunée Esther, que le commerce des Juifs et son changement de religion font mépriser de tous. Là-dessus, je ne peux pas te donner de réponse. Le vieil héritier du majorat a conduit cette affaire tout seul. Je n'avais plus à m'occuper du bien après t'avoir sauvé de la honte d'une naissance illégitime et élevé à une fortune brillante. Tu ne m'en remercies pas ? Il était tout absorbé et ne répondit pas à cette question. Mais il dit d'une voix sombre, « Mais je devrais être riche sur les bords d'une malheureuse, ah non, ne suis-je pas assez instruit pour pouvoir me suffire moi-même ? Je joue de plusieurs instruments avec autant de talent que personne. Je peins, je sais exprimer en toute langue. Arrière, ces richesses qui ne m'appartiennent pas, elles ne m'ont pas donné le bonheur. » La vieille dame l'avait écouté attentivement, tout en caressant son barbet qui lui appuyait familièrement ses pattes sur les genoux. Elle prit la main de l'héritier du majorat et lui dit « Tu ne dois pas la moindre obéissance à ta mère, mais cependant, sache que ce que j'ai fait n'est pas une injustice. Garde pendant 24 heures encore le secret de la naissance et repousse toute détermination qui pourrait naître en toi. Donne-moi ta main et ta parole. » L'héritier du majorat, assez content d'avoir encore 24 heures avant de prendre une résolution, lui baisa la main, prit congé d'elle et courut jusqu'à sa maison pour se remettre un peu de son émotion. Mais un nouvel incident devait l'y troubler plus profondément encore que tout le reste. Il vit devant la maison d'Esther une grande foule de juifs et de juives qui se parlaient avec animation. Comme il ne voulait pas se mêler à eux, il entra chez lui et interrogea la vieille gouvernante. Elle lui apprit qu'il y avait à peine une heure, le fiancé de la belle Esther était arrivé tout déguenillé d'Angleterre, où il avait perdu tout son bien. La vieille Vasti lui avait défendu de franchir le seuil de sa maison et déclaré qu'il n'eut plus à penser à sa belle-fille. Mais Esther avait juré tout haut qu'elle voulait d'autant plus tenir la promesse qu'elle avait faite d'épouser le malheureux, aujourd'hui qu'il avait besoin d'elle, quoiqu'en tout autre moment sa mauvaise santé lui fait rompre ses fiançailles. Là-dessus, la mère Vasti s'était emportée violemment, et l'intervention des plus anciens voisins était parvenue avec peine à l'apaiser. Chacun lui donnait tort, tout haut, de vouloir ainsi rompre le mariage, non pas par solitude pour sa belle-fille, mais par espoir d'hériter d'elle, la voyant très malade. C'était donc un moyen d'accommodement de moins. L'héritier du majorat ne pouvait plus épouser Esther à l'abandonner. Et maintenant, son amour lui paraissait criminel. Il voyait Esther, blanche et épuisée, étendue comme une morte sur son sofa, tandis que son fiancé, un homme de mine assez pitoyable, lui racontait ses aventures malheureuses. On alluma la lampe. Esther parut se remettre. Elle le consola, lui promit de quitter son commerce lorsqu'il serait marié, mais le pria de ne jamais entrer dans sa chambre. Il jura de se soumettre à toutes les conditions qu'elle voulait lui imposer, si elle le tirait de la misère et le mettait à l'abri des fureurs de la vieille Bastille. « C'est l'ange exterminateur, c'est l'ange de la mort, disait-il, j'en suis sûr. On la rappelle chaque soir là-haut, parce que les morts ne doivent pas passer la nuit dans la maison des vivants, et elle vous suce la laine pour que vous ne soyez pas tourmenté longtemps et que vous ne deveniez pas à charge aux autres. Je l'ai vue. Lorsqu'elle quitta ma mère et que je m'approchais du lit, la pauvre femme était morte. » Je l'ai entendu dire à mon beau-frère, et personne n'ose en parler. C'est une affaire de complaisance, sans doute, mais cela me fait frissonner. Esther essaya de lui ôter cette idée, et lui dit à la fin. Réfléchissez, si la vieille vous fait trop peur, ben ne m'épousez pas. Cela m'est complètement égal. Je ne le faisais que pour vous tirer de la misère, réfléchissez-y bien. Allez-vous-en, et laissez-moi seul. Le fiancé se retira. Une fois partie, Esther se leva avec difficulté, se regarda avec effroi dans son miroir et joignit les mains. L'héritier du majorat considéra l'étroit espace qui les séparait. Il pensa à aller la consoler, mais avant qu'il eût décidé s'il devait hasarder un saut périlleux ou réunir les deux fenêtres au moyen d'un pont, il entendit, comme les autres, soir un bruit violent, et la belle Esther retomba dans sa monomanie de réception. Elle passa rapidement une légère robe de bal, sur laquelle elle jeta un domino de couleur feu, mit un loup et attendit ainsi les autres masques qui devaient prendre part au bal. Et tout se passa comme la veille, mais avec plus d'étrangeté encore. Des masques grotesques, des diables, un ramoneur, des chevaliers, des gens déguisés en coqs, grognaient, criaient et gloussaient en toutes les langues. Ils voyaient apparaître les personnages à mesure qu'ils étaient animés par la voix d'Esther. Elle renvoyait avec vivacité les plaisanteries qu'elle se faisait à elle-même et ne paraissait plus se ressentir de la faiblesse qui la battait un instant auparavant. Elle savait répondre à chacun quelque chose qui l'intrigua ou qui l'intéressa. Il n'y eut qu'un seul masque auquel elle ne put répondre de même. Il vint lui reprocher de faire de telles folies si près de son mariage. « Mon mariage, dis-tu de l'aumône que je fais à ce pauvre jeune homme? Et ne parlons pas de mariage. Je suis abandonné. L'héritier du majorat se perdra dans une irrésolution avant d'avoir rien fait pour moi. Mon pouls va bientôt battre mes dernières minutes, et comme David dansait devant l'arche d'alliance, moi je danse en allant devant d'une alliance plus sublime. » À ces mots, elle saisit le masque et commença une valse effrénée. Les autres masques suivirent son exemple, tandis que tout en dansant, elle imitait parfaitement avec sa bouche les violons, les basses, les hautbois et les cors de chasse. Cette valse terminée, on pria Esther de danser un fandango. Elle jeta son loup et sa robe de bal, prit des castagnettes et dansa avec tant d'expression que toutes les pensées de l'héritier du majorat firent place au ravissement. Elle venait de recevoir les compliments de tous les assistants et reprenait haleine, lorsqu'elle aperçut, avec effroi, entrer un petit homme. L'héritier du majorat, qu'il avait entendu nommer par Esther, le vit saluer les invités. Son déguisement était tout déguenillé. « Dieu, dit-elle, c'est mon pauvre fiancé qui vient essayer de gagner de l'argent en faisant ses tours de passe-passe. » Le pauvre masque plaça au milieu de la chambre une petite table, une chaise, offrit de montrer quelques tours d'adresse et fit passer un plat pour la quête. Puis il ouvrit la séance par d'adroits tours de cartes. Ensuite il escamota des gobelets, des bagues, des bourses et autres tours du même genre qui firent fort plaisir à la société. Cela finit, il ôta son domino et se montra vêtu d'un habit blanc très léger, sans toutefois quitter son masque, et annonça qu'il allait faire, avec son propre corps, des tours de force admirables. Il se mit sur le ventre et commença à tourner comme un hanneton embroché. Mais Esther, le voyant faire toutes ces contorsions, fut prise d'un tel dégoût et d'une telle horreur qu'elle tomba sur son lit, les yeux fermés, en proie à une attaque de nerfs. Et dans le même instant, l'héritier du majorat vit disparaître tous les personnages qui remplissaient la chambre. Sa bien-aimée était seule, abandonnée à d'affreuses douleurs. Il résolut de la secourir. Il descendit rapidement l'escalier, mais, se trompant de porte, entra dans une chambre qu'il ne connaissait pas. En face de lui et de sa lampe, se dressaient d'effrayantes ombres couvertes de plumes, et dont le nez rouge ressemblait à un bonnet de nuit accroché à un bec monstrueux. Il se sauva et sauta sur le toit pour regagner sa chambre. Là, il regarda autour de lui. Il était environné de calmes et saintes images, de pieux symboles, de blanches colombes. La sensation de se voir ainsi entre le ciel et l'abîme, l'aspiration à la paix du ciel dont les emblèmes l'entouraient, apaisèrent les tempêtes de son âme et le rendirent calme comme l'huile, en même temps que le pressentiment que la terre n'aurait bientôt plus besoin de lui réveilla tout son dévouement pour Esther. Mais au milieu de ces rêveries transcendantes, apparut la réalité coiffée d'un bonnet de nuit serré autour de la tête par un ruban, des lunettes sur le nez, une robe de chambre d'indienne déteinte sur le dos et armée d'une épée. C'était le cousin, réveillé par le bruit, et qui arrêta l'héritier du majorat en lui disant « Est-ce vous, cher cousin, ou votre esprit ?» « C'est mon esprit, » reprit ce dernier tout troublé, « car je ne sais pas comment, mais j'ai été transporté ici, au milieu des anges. »« Rentrez dans votre chambre, » reprit-il cousin, « sans cela mes pigeons vont quitter leurs œufs, et en bas mes dindons ne veulent pas rester tranquilles. C'est vous sans doute qui êtes allé les troubler. Je ne pouvais m'expliquer ce bruit dans l'escalier et ce tapage chez mes bêtes, qu'en supposant un voleur venant de la rue des Juifs. Oh, j'aime mieux encore que ce soit vous. Vous êtes peut-être somnambule, mon cher cousin. Oh, c'est une maladie que je sais guérir. » En causant ainsi, il ramena le jeune héritier dans sa chambre. Celui-ci prit le parti d'avouer à son cousin qu'il avait vu Esther tomber prise d'une attaque de nerfs et que dans sa précipitation pour aller à son secours, il s'était trompé de porte. « Quel bonheur !» s'écria le cousin, « car si la porte de la rue avait été ouverte, vous ne seriez pas entré dans cette maison sans qu'il vous arrivât quelque malheur. » L'héritier du majorat s'était mis à la fenêtre et dit au cousin « Il a l'air de dormir maintenant. Cet affreux accès est passé. » Et le lieutenant continua « si vous aviez vu Esther il y a seulement un an, qu'elle était belle !» À cette époque, le fils d'un de mes camarades de régiment s'engagea dans les dragons. C'était l'unique trésor de sa mère depuis qu'elle avait perdu son mari dans une escarmouche, combat souvent plus dangereux que les grandes batailles. Je vis bien comme elle l'adorait, car elle donna jusqu'à sa dernière chemise pour l'équipement de son fils. Elle ne pensait pas que c'était peut-être son linceul qu'elle lui donnait là. Mais le garçon était étourdi, je m'en aperçus bien vite à sa manière de monter à cheval. Il voulait toujours faire caracoler sa bête sans se préoccuper des gens qui passaient à côté de lui. Bref, il devint amoureux de la belle Esther et Esther de lui. Mon jeune homme veut s'introduire un soir chez elle. Mais les pauvres juifs que nous chassons de nos rues pensent qu'ils peuvent bien chasser les chrétiens des leurs. Alors ils tombent tous sur lui, et à leur tête la vieille Vasti, qui le laissa pour mort. L'affaire se répandit, Les officiers ne voulaient plus servir avec le jeune enseigne. Il vint me trouver et me demanda ce qu'il devait faire. Alors je lui dis, tuez-vous, après cela vous n'avez plus rien à faire. Bien mon homme prit la réponse à la lettre et se tua. Je fus obligé de leur annoncer cette nouvelle à la mère. Bien depuis cette époque, chaque soir, vers le moment où il s'est tué, Esther reçoit une secousse, comme si on tirait à côté d'elle un coup de pistolet que personne d'autre n'entend. Puis lui prend un accès de bavardage et de danse auquel personne ne comprend rien. Et les habitants de la maison la laissent seule, car ils en ont peur. Bouleversé par ce récit fait avec le plus grand sang-froid, le jeune héritier s'écria « Que d'abîme sépare cette pauvre humanité qui aime et qui cherche à se rapprocher. Combien haut doit être notre destinée, puisqu'elle a besoin de froidement, fondements si profonds, si cruels sacrifices d'amour, de tous ces témoignages qui, plus que des miracles, attestent la vérité de l'histoire sainte. Oh, vous êtes toute véritable, histoire sainte de tous les peuples !» Et après quelques instants de silence, il dit au cousin « Est-il bien vrai que la vieille Vasti soit l'ange exterminateur ? Les gens disent qu'elle donne aux mourants le coup de la mort. » « À l'occasion, répondit le cousin, c'est un service qu'elle vous rend, pour qu'on ne soit pas enterré vivant. Une loi stupide défendant que les morts respirent 3 heures dans les maisons. Un médecin m'a rapporté, ajouta-t-il, qu'ayant un malade sujet au syncope, il lui jura de rester auprès de lui s'il tombait en léthargie, pour empêcher qu'on l'étouffât lorsqu'il paraîtrait mort. En effet, les parents conseillèrent au médecin de se retirer, puisque le gisant était mort. Mais il resta et sauva la vie du malheureux, qui lui en fut toujours reconnaissant. Les autorités prirent l'éveil et défendirent alors les enterrements précipités. Mais parlons de choses plus gaies, continua le cousin. Je vous dois beaucoup de remerciements. Vous avez fait mon bonheur. L'aimable dame de mon cœur a pour vous une si bienfaisante et si maternelle tendresse qu'elle m'a accordé cette main promise depuis 30 ans, si je peux vous décider à rester auprès d'elle, comme un fils chéri et à soutenir par votre présence notre vieillesse qui approche. Et comme, mon cher cousin, vous m'avez abandonné tout ce qu'il peut soutenir votre existence matérielle en me donnant l'administration du majorat, et que je vois, d'après votre conduite, que le genre de vos études est trop abstrait pour que vous parveniez à faire valoir vos biens, eh bien, j'ai donné votre parole absolument, comme si j'étais votre tuteur. » L'héritier du majorat se soumit à la volonté du cousin, comme Esther à celle de Vasti. Il lui semblait que c'était aussi un ange exterminateur et qu'il serait capable de lui offrir un pistolet avec autant d'indifférence qu'au jeune dragon, s'il venait à lui découvrir le secret du majorat. Mais le jeune héritier tenait à sa vie, comme tous ceux qui souffrent. Il comprit que c'était un expédient ingénieux trouvé par la dame de le lier de telle façon à la maison par son mariage avec le cousin, que dans le cas fort improbable où leur vieillesse leur donnerait des enfants, lui seul fut le but et l'arbitre de toutes leurs espérances. Ses réflexions le décidèrent à féliciter son cousin de son mariage et de l'assurer des sentiments filiaux qu'il éprouvait pour la dame. Il lui promit en outre d'habiter avec lui dans l'hôtel du majorat, de voir le monde et de tâcher de lui rouvrir l'accès de la cour. Dans sa joie, le cousin lui lut quelques vers où il avait chanté cet heureux moment, puis prit congé fort tard de l'héritier du majorat accablé de sommeil, et qui maudissait intérieurement la poésie de son cousin. Cependant, malgré cette horreur pour les vers, il ne pouvait s'empêcher de répéter quelques rimes, sans savoir d'abord d'où elles lui venaient. Il put se souvenir ensuite que c'était lorsque, caché derrière la statue, il épiait la vieille Vasti. Il était une juive, une femme affreusement jaune. Elle avait une fille charmante. Ses beaux cheveux étaient tressés avec des perles. Toutes les perles de son écrin et flottaient sur sa robe de noces. Ah, chère, chère mère, que mon cœur me fait mal. Dans mes vêtements fleuris, laisse-moi un instant me promener sur la verte lande jusqu'à la mer bleue. Bonne nuit, mère que j'aime. Tu ne me reverras plus jamais. Je veux courir à la mer, je veux m'y noyer. Et je serai baptisé aujourd'hui. La tempête gronde si fort. Il s'endormit bientôt à la musique de ses vers, qui lui revenait toujours. Lorsque, vers le soir, il fut réveillé par le coup de pistolet qui se fit entendre à l'heure accoutumée. Presque en même temps, la vieille gouvernante entra, et le tourment éveillé lui demanda s'il ne voulait pas voir par la fenêtre une fiancée juive. Qui va se marier ? Demanda-t-il. Oui, la belle Esther, avec son fiancé qui est revenu hier. Heureusement, l'héritier du majorat s'était tellement étendu sur son sofa sans se déshabiller, car il n'avait pas de temps à perdre. Il courut précipitamment à la fenêtre de derrière, d'où il avait vu le cimetière et ses animaux furieux. Les longues ombres des maisons entrecoupées des dernières clartés du soleil rayaient la verte pelouse voisine du cimetière qu'entourait une nuée d'enfants. La mélodie de la musique rappelait le rythme oriental. Un riche dais brodé était porté par quatre enfants en tête du cortège. Les assistants exprimaient leur joie de la manière la plus étrange. Les uns imitaient le chant du rossignol et de la caille, les autres se pinçaient et se déchiraient le visage réciproquement, d'autres enfin, avec maintes contorsions, allaient saluer le fiancé qui avait la tête couverte d'un drap noir comme un ramoneur et qui arriva entouré d'une foule d'hommes qui le félicitaient. On commençait à s'impatienter et à faire mille suppositions dans la foule parce que la fiancée se faisait attendre plus qu'il ne fallait. Enfin, une femme arriva, les mains jointes, qui cria durement « Esther est morte !» Les cymbales et les tambours se turent. Les enfants laissèrent tomber le dais. Le taureau furieux poussa un terrible mugissement. L'héritier du majorat, seul, tandis que tous couraient voir ce qui s'était passé, resta au coin de sa fenêtre jusqu'au moment où les pigeons rentrèrent et vinrent voltiger autour de sa fenêtre. La vieille gouvernante dit alors « Tiens, ils en ont ramené un. Qui sait à quel malheureux il a appartenu et combien on va le regretter. « Mais c'est elle !» s'écria l'héritier du majorat. « C'est la céleste colombe, je ne la pleurerai pas longtemps. » Il se retira dans son cabinet et eut le courage de regarder vers la fenêtre d'Esther. Tout le monde s'était déjà sauvé de la chambre par crainte d'un mort. Le fiancé déchirait ses vêtements devant la maison et s'abandonnait à toutes les extravagances de la douleur tandis que les vieilles parlaient de la succession. Elle était étendue sur son lit, sa tête penchée un peu en dehors, ses cheveux dénoués pendaient sur le sol. Auprès d'elle, il y avait un pot où s'épanouissaient les fleurs de toutes sortes et un verre d'eau où elle avait sans doute puisé ses dernières forces pour la lutte suprême. « Où êtes-vous maintenant, célestes êtres ? » s'écria-t-il en regardant le ciel. Qui l'entouriez comme si vous aviez pressenti sa fin. Où es-tu, bel ange de la mort, image de ma mère? Ainsi la foi n'est qu'une vague contemplation, une rêverie entre le sommeil et la veille, un nuage que la lumière vient dissiper cruellement. Où est cette âme mêlée dont j'espérais m'approcher dans un milieu plus pur? Et si on me l'enlève? À quel signe nous retrouverons-nous dans le monde supérieur ? Les femmes sont devant sa maison qui parlent d'enterrement. Bientôt, tout va être fini. Sa chambre devient de plus en plus sombre et ses beaux traits disparaissent dans l'obscurité. Tandis qu'il était en proie à ce terrible délire, la vieille Vasti entra dans la chambre avec une lanterne sourde, ouvrit une armoire et en tira quelques bourses qu'elle cacha dans une grande poche de côté. Puis elle enleva le voile nuptial de la malheureuse et prit avec un ruban la mesure de son corps, non pas pour lui faire une robe, mais pour lui choisir un cercueil. Puis elle s'appuya sur le lit comme pour prier. L'héritier du majorat, la voyant prier, lui pardonna son vol et s'agenouilla aussi. Après qu'elle eut prié, les traits de son visage se confondirent en une silhouette également opaque, semblable à ces cartes découpées qui, placées entre l'œil et une lumière, imitent une figure humaine sans que l'on puisse discerner les ombres ni les méplats. Vasti n'avait pas l'air d'un être humain, mais d'un nouveau tour, qui, après avoir longtemps contemplé le soleil, tombe sur un ramier et l'éblouit de la lumière qu'il vient de puiser à la source. La vieille Vasti se pencha sur la poitrine de la pauvre Esther et lui mit la main sur le cou. L'héritier du majorat a cru voir quelques mouvements à la tête, aux mains et aux pieds de la belle Esther. Mais la volonté et la décision restèrent comme toujours en retard. Ce spectacle le saisit au point de croire qu'il n'y survivrait pas. L'affreux vautour, la pauvre colombe. Au moment où Esther, abandonnant la lutte, allongeait ses bras au-dessus de sa tête, la lampe s'éteignit, et du fond de la chambre apparurent, en lui faisant des signes d'amitié, les acteurs de la première création, Adam et Ève. Il se tenait sous l'arbre fatal et regardait avec bienveillance les mortels du haut du ciel toujours pur du paradis reconquis. Il regardait la mourante d'un air consolateur, tandis que l'ange de la mort, planant au-dessus de sa tête, le sage, le visage sombre, vêtu d'une robe émaillée, Dieu, et armé d'un glaive de flamme éblouissant, guettait le moment de déposer sur ses lèvres la dernière goutte d'amertume. L'ange était là, pensif, comme un inventeur au moment où il trouve la solution de son problème. Esther, d'une voix éteinte, dit à Adam et à Ève, « C'est donc à cause de vous qu'il faut que je souffre ainsi ?» Et ceux-ci lui répondirent, « Nous n'avons fait qu'une faute, et toi, n'en as-tu pas fait qu'une aussi ?» Esther soupira, et au moment où elle entr'ouvrait ses lèvres, la goutte amère tomba du glaive de l'ange dans sa bouche. Son âme parcourut tous ses membres dont elle était chassée et prit congé de ce séjour où elle avait tant souffert et qu'elle avait tant aimé. L'ange de la mort trempa la pointe de son glaive dans le verre qui était auprès de lui, le remit dans le fourreau et recueillit la mêlée sur les lèvres de la belle Esther. C'était sa pure ressemblance. L'âme se plaça sur les mains de l'ange, étendit ses bras vers le ciel, et tous disparurent sans que le toit fît obstacle à leur vol. Et à travers le système de notre monde, il apparut un monde supérieur, que la fantaisie seule rend visible à l'esprit. La fantaisie, se tenant comme un trait d'union entre ces deux mondes, et qui spiritualise l'étoffe qui nous a servi d'enveloppe et lui donne une forme vivante en animant le milieu supérieur où elle se trouvera. La vieille n'avait pas paru s'apercevoir de tout ce qui venait de se passer. Elle avait regardé d'un autre côté, et lorsque la lutte de la mort fut terminée, elle prit encore quelques bijoux, décrocha un tableau d'Adam et Ève suspendu au-dessus de la porte et l'emporta avec le reste. L'héritier du majorat commença à comprendre que dans tout ce qu'il avait vu, il y avait quelque chose qui s'était passé véritablement dans le monde ordinaire. « Au nom du Dieu miséricordieux, mais la vieille l'a tué !» s'écria-t-il. Et en même temps, s'oubliant lui-même, il sauta par la fenêtre et tomba heureusement sur la fenêtre ouverte de la chambre d'Esther. À son cri, les fossoyeurs et le fiancé entrèrent dans la maison. Ils arrivèrent dans la chambre où ils trouvèrent l'héritier du majorat, que personne ne connaissait, essayant de ranimer la malheureuse Esther. C'était en vain. Il leur raconta ce qu'il avait vu et comment Vasti avait étouffé. Le fiancé s'écria « Oh, c'est certainement vrai, je l'ai vu monter, je l'ai vu descendre en se cachant, mais j'en ai eu peur. » Les fossoyeurs lui reprochèrent ces paroles impies et prétendirent que cet étranger n'était qu'un fou ou peut-être même un voleur qui avait inventé ce mensonge pour échapper à la justice. Alors l'héritier du majorat prit le verre d'eau et dit « Aussi vrai que la mort a trempé son glaive dans cette eau et l'a empoisonné, aussi vrai est-il que Vasti a étouffé Esther à mes yeux. » À ces mots, il vida le verre et tomba sur le lit. À l'éclat de ses yeux, à la pâleur de ses lèvres, tous virent bien qu'il était gravement atteint et ils écoutèrent religieusement ces paroles entrecoupées. La vieille l'avait déjà tué depuis plusieurs années et Esther, lorsqu'elle est morte, n'avait plus qu'une apparence de vie que lui avait conservée la rapacité de la vieille et son irréalisable amour pour moi. Maintenant, elle a été rappelée au ciel de sa foi. Elle l'a trouvé, et moi aussi je vais le retrouver, mon ciel, c'est-à-dire le calme et l'immobilité du bleu éternel. Il va me recevoir dans son immensité, moi, le plus jeune enfant, comme il a reçu le premier-né, tous dans une égale félicité. Bientôt, ses paroles devinrent de plus en plus confuses. Ses lèvres remuèrent encore un peu. Les Juifs dirent que l'eau trouvée dans la chambre d'un individu mort d'une maladie violente est dangereuse, et le plus souvent mortelle. Ils le portèrent dans la maison du lieutenant et répétèrent ce qu'il leur avait raconté. Le cousin leur assura que le jeune homme était malade depuis longtemps et appela le médecin, que le premier jour, l'héritier du majorat avait vu assis dans sa voiture, comme la mort, et conduisant ses deux chevaux, qu'il avait pris pour la faim et la douleur. Ce dernier haussa les épaules, employa la lancette, les ventouses et autres moyens violents. Mais il ne put troubler l'immobilité du malheureux. Il ne fit qu'accélérer sa mort. Le soir, le lieutenant prit possession du majorat et passa sa première nuit de bonheur dans le lit d'honneur de l'hôtel. Sa brillante livrée et son luxe de bon goût firent l'admiration générale lors de l'enterrement de l'héritier du majorat. Il donna plusieurs grands dîners. Il ne se passait pas une semaine qu'il y fût fête chez lui, et chacun s'étonnait qu'on eût été si injuste envers un tel homme. Les uns vantaient le précieux esprit pratique qu'il avait aidé à traverser tous les malheurs de sa vie. D'autres se rappelaient maintenant le courage dont il avait fait si souvent preuve à la guerre. Quelques-uns allaient jusqu'à faire l'éloge de ses poésies et le priaient de les publier. Il rentra au service avec ses années de congé et donna à la noble dame avec sa main le grade de général après que le médecin lui guérit la rougeur de son nez par un traitement merveilleux. En l'honneur de la noce, on sacrifia toute la volaille qu'il avait si longtemps nourrie dans la petite maison. Les plus grands personnages honorèrent la cérémonie de leur présence, et chacun vanta la gaieté et l'éclat de cette fête. Mais la nuit ne se passa pas si bien. Les médecins supposèrent que le cousin avait bu trop de vin. Mais les gens de la maison assurèrent qu'en se mettant au lit, la dame avait brisé un flacon où était enfermé l'esprit de son ami tué en duel, que l'esprit avait placé son épée au milieu du lit et qu'ils étaient battus avec le cousin jusqu'à ce que le seigneur harassé se fût retiré. Le lendemain matin, la dame se moqua de lui, l'appelant fou et visionnaire. Et comme il s'emportait, le pressa de lui raconter la cause de cette querelle qu'il avait eue à la cour. Le pauvre homme se jeta à ses pieds et elle la supplia de garder l'histoire secrète. Elle lui promit à condition qu'il ne s'opposerait à aucun de ses caprices. Il lui fallut donc souffrir que les chiens de madame, un jour qu'elle s'était fait montrer la collection et avait laissé l'armoire ouverte à dessein, jouassent avec ses précieuses armoiries et les déchirassent dans leur jeu. Il ne lui était plus possible de vivre régulièrement, car la dame lui dérangeait toutes ses heures sous prétexte que ses chiens avaient envie de dîner plus tôt ou plus tard. Il n'avait plus le temps de faire sa promenade habituelle depuis que sa femme lui avait donné un certain nombre de chiens de chasse à dresser. La bonne vieille Ursule essayait bien de l'exciter à la résistance, mais il faiblissait, rien qu'à la pensée que la nuit suivante, l'esprit pourrait sortir de nouveau du flacon, et il finit par la renvoyer. Il portait l'angoisse et le trouble dans son cœur comme un coq battu qui s'est sauvé une fois devant son rival. La dame savait bien que c'était là son côté faible, et profita de cette peur pour le chasser de toutes les grandes chambres, jusque dans un grenier, tandis qu'elle s'installait dans les plus beaux appartements de nouvelles colonies de chiens de race de tout genre. Ces ridicules circonstances l'empêchaient de se montrer dans le monde, qui du reste ayant bien vite appris l'histoire du secret mariage et de la substitution d'enfants, était déjà fermé à la femme. Elle ne s'en adonna qu'avec plus d'extravagance à son amour pour les bêtes, et de leur personne eut plus la permission d'entrer dans l'hôtel. Les gens curieux venaient bien le soir devant les fenêtres, épier à travers les fenêtres, les fentes des volets, l'éclat des lustres allumés, et grimpaient sur les murs pour saisir quelque chose de ces fêtes étranges. Ils racontaient qu'ils avaient vu une foule de chiens et de chats s'asseoir à de grandes tables chargées de plats d'argent contenant des ragoûts exquis, et que monsieur le général se tenait debout derrière la chaise du chien favori, une assiette sous le bras, et invitait les autres chiens à manger en leur disant des amabilités en français. Que la dame avait fort ri, comme d'une fine plaisanterie, parce que deux chiens avaient essuyé leurs pattes sales sur la grande nappe où étaient tissées les armes du majorat, tandis que le malheureux seigneur, tremblant de rage, exécutait des trilles avec son assiette sur les boutons de son uniforme. « Puisque nous voilà tous de bonne humeur, dit la dame, lissez-nous votre pièce de verre sur le baptême de mon petit chien Cartouche. » À ces mots, ceux qui écoutaient du dehors éclatèrent de rire, ce qui mit le désordre dans la fête. La femme gronda, les chiens aboyèrent, le général congédia tous ses gens, les curieux s'enfuirent, et le lendemain la maison fut entourée d'un haut treillis de fer, de sorte qu'il était impossible de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Ce treillis intercepta dès lors toute nouvelle de l'hôtel du majorat. Pendant les guerres de la Révolution, la ville eut à s'occuper de bien d'autres lieutenants et d'autres généraux. Dans cette époque de bouleversement, les vieux qui ne pouvaient s'y mêler ni en suivre le mouvement mouraient inaperçus. C'est au moins ce qui arriva au seigneur du majorat, à sa femme et à ses chiens, à la suite de plusieurs scènes où un officier, allié, se considérant comme chargé de rétablir l'ordre, chassa les chiens de la belle manière et voulut faire rentrer le vieil héritier du majorat dans ses droits sur sa maison. Pendant ce temps, la ville tomba au pouvoir de l'ennemi, les fiefs et les majorats furent abolis, les juifs émancipés, et le continent traqué comme un criminel. Ce régime excite la contrebande, et Vashti employa si bien son temps qu'entrant dans les vues du nouvel état des choses, Elle put acheter à fort bas prix l'hôtel du majorat, alors désert, où elle établit une fabrique de sel ammoniaque, et la vente de quelques tableaux précieux qu'elle y s'y trouva servit à couvrir les frais d'installation. Ainsi, l'hôtel du majorat tomba entre les mains de son plus grand ennemi, mais il avait reçu une destination utile et le crédit avait pris la place de la noblesse.